Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, c'est le 17e de notre 9e saison et je reçois aujourd'hui monsieur Régis Banquet. Bonjour.
Bonjour.
Alors bonjour monsieur le maire, parce que vous êtes d'abord maire de la commune d'Alzonne. Vous êtes également président de la communauté d'agglomération de Carcassonne Agglo, c'est comme ça qu'elle s'appelle,
ça.
Une des deux plus grosses d'ailleurs du département. Mmh. Vous présidez également, alors le CIADEN, c'est assez technique, mais c'est un syndicat intercommunal concernant l'énergie, pour faire simple.
Départemental,
bien sûr, mais...
Qui concerne tous les travaux d'électrification, d'éclairage public, d'énergie... Déploiement de la fibre optique,
voilà.
Usage du numérique.
Voilà. Donc, ce qui permet d'envisager dans cette émission de consacrer au moins un volet important aussi à l'énergie, à la production de l'énergie. Et puis, en troisième partie, monsieur Banquet, on conclura, comme c'est de tradition, sur des positions un peu plus personnelles et notamment politiques. Je crois que vous êtes toujours au Parti Socialiste.
Oui.
Voilà. Bon, donc on reviendra un peu plus en détail sur cet aspect-là des choses. Mais tout d'abord, je m'adresse au président donc de Carcassonne Agglo. Vous avez, comme tout le monde, des sessions régulières, des séances régulières. Au cours de la toute dernière, vous avez voté à l'unanimité, je pense, une aide aux boulangers. Alors, aux boulangeries et aux boulangers de votre agglo.
Oui, c'est ça.
Alors expliquez-nous en quoi ça consiste et pourquoi ce choix.
Alors pourquoi ce choix? Parce que pour moi, le pain, c'est un peu comme l'eau. C'est un bien précieux. Et le boulanger, dans un village, c'est quasiment du service public. Et quand une boulangerie ferme, c'est un vrai choc pour la population. Et donc je ne peux pas accepter que ces commerces-là, qui sont aujourd'hui sous la double peine, c'est-à-dire qu'ils ont... des factures énergétiques qui ont explosé, et en plus, ils ont des factures de matières premières, en particulier la farine, qui a explosé aussi. Donc, ils sont sous la double peine. Et donc, il faut les aider. Je suis très heureux que Carole Delga, en tant que présidente de région, ait initié, je dirais, cette démarche-là. Et donc, elle m'a contacté, comme beaucoup de présidents d'intercommunalité. Et j'ai souhaité m'associer à sa démarche pour venir en aide aux boulangers. C'est-à-dire que, pour faire simple, ces boulangers qui sont aujourd'hui en difficulté, eh bien, nous regardons d'abord si c'est des artisans boulangers, d'abord. Donc il est hors de question d'aider des chaînes industrielles qui ont des chiffres d'affaires supérieurs, par exemple, à 1 million d'euros. Mais nous aidons la petite boulangerie de village qui, elle, se retrouve en difficulté. Et donc c'est la région qui va apporter une aide de 2000 euros pour la facture énergétique. Et nous allons compléter avec une aide de 1000 euros supplémentaires.
C'est-à-dire ça peut aller
jusqu'à 3000 euros
par boulangerie.
Par boulangerie. Et cette aide-là, bon, bien sûr, elle est ponctuelle. Hein, c'est une aide que nous allons mettre en place de mars à juin là, pour, passer ce cap. Et faire en sorte que cette facture d'énergie ne vienne pas hypothéquer le travail, parfois de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années de vie, de ces artisans boulangers, qui, dans les villages, sont le commerce qui, souvent, est le plus reconnu par nos concitoyens.
Et l'indispensable.
Je dirais qu'en France, le pain est indispensable et donc je ne comprendrais pas qu'on n'aide pas cette catégorie de commerce-là.
Et alors, Régis Banquet, quels sont les critères d'attribution de ces aides?
Alors, les critères d'attribution, ils sont relativement simples. Il faut que, bien sûr, le chiffre d'affaires soit inférieur à 1 million d'euros. Donc,
la plupart des artisans boulangers.
C'est les artisans boulangers. Et ensuite, il faut que la facture énergétique ait été multipliée par 2 ou par 3. Et donc, à partir de là, on vient soutenir ces boulangers de façon à ce que, dans les mois qui viennent, ils puissent passer ce cap-là et entrevoir peut-être l'été ou l'automne avec un peu plus de sérénité.
Oui, et vous verrez à ce moment-là quelle sera la conjoncture.
Nous travaillons, avec la région, mais aussi avec la Chambre des métiers, de façon à suivre je dirais pas au jour le jour, mais à suivre très précisément l'activité des boulangers et bien sûr d'autres professions, hein, bien entendu, mais en particulier celle-là, pour ne pas être, je dirais, au-devant d'une fermeture qui viendrait hypothéquer, je dirais, la vie de nos villages.
Voilà. Les déserts médicaux suffisants, on ne voudrait pas de désert de boulangerie en plus.
C'est un peu ça.
Dans le rural, au doigt en tout cas.
C'est un peu ça.
Alors, Régis Banquet, vous occupez beaucoup, vous intéressez beaucoup à la vision et à la gestion future de l'eau. Dans une émission précédente, vous l'aviez évoqué. Essayez de nous dire un petit peu comment vous est venue, alors je ne dirais pas cette vocation, mais cet intérêt particulier et cette vision des choses.
Alors, d'abord, elle m'est venue, c'est pas d'hier. Je veux dire, je me suis pas levé hier matin en me disant l'eau est un enjeu majeur pour les 20 prochaines années. Ça fait déjà un petit moment que l'eau, pour moi, fait partie des enjeux que nous devons mettre en priorité dans les politiques publiques sur nos collectivités. Alors nos collectivités au sens large, je dirais, je suis pas... à dire que ce sont les communes ou les intercommunalités ou les départements ou les régions, etc. C'est collectivement avec l'État que nous devons arriver à surmonter ce défi de la raréfaction de cette ressource. Parce qu'aujourd'hui, on s'en rend compte, cette ressource devient de plus en plus rare. Regardez les articles de journaux. Sur Toulouse, aujourd'hui... il va y avoir de grandes difficultés d'approvisionnement en eau potable. La Garonne baisse
un jour.
Aujourd'hui, nos réserves d'eau traditionnelles, que ce soit dans les Pyrénées ou dans la Montagne Noire, sont au plus bas. Juste quelques exemples. Le barrage des Cammazes, depuis qu'il a été créé, 150 ans, il n'a jamais été aussi bas au mois de février. Jamais. C'est la première fois qu'il est aussi bas.
Ah oui, oui.
Les réserves que l'on a créées, je dirais, dans les 40 dernières années, comme le lac de la Ganguise. La Ganguise, normalement, doit avoir une capacité d'approvisionnement du département à hauteur de 44-45 millions de mètres cubes. Aujourd'hui, dans les meilleures prévisions, la Ganguise ne pourra fournir que entre 15 et 17 millions de mètres cubes.
Ah oui, c'est-à-dire le tiers,
quasiment trois fois moins.
Oui.
Le lac de Montbel est quasiment vide. Donc aujourd'hui, c'est pas un cri d'alarme que je pousse. C'est plus fort que ça. Je dirais c'est notre quelque part notre survie qui est en jeu. Alors pas là quelques mois près ou quelques semaines, mais je dirais que dans les années qui viennent, l'eau devient le problème numéro un pour moi. De la survie de l'humanité sur Terre. Parce que on peut parler de biodiversité, on peut parler de la nature, on peut parler de tout ce que l'on veut. Si nous n'avons pas d'eau, nous ne survivrons pas. Parce qu'il n'y aura pas de plantes pour nous nourrir, ou de culture. Et l'agriculture a besoin d'eau.
Et puis la vie, c'est l'eau.
L'industrie a besoin d'eau. Et nous, en tant qu'individus, je dirais humains, hein, comme tous les animaux qui sont sur Terre, ou toutes les espèces qui sont sur Terre, nous avons besoin d'eau. Et donc... cette eau, eh bien, il faut la traiter avec beaucoup de rigueur, beaucoup, je dirais, d'attention, parce que si nous continuons à vivre sans nous soucier de nos consommations individuelles, hein, un peu comme, je dirais, le cri d'alarme qu'avait poussé l'État sur l'énergie au mois d'octobre-novembre.
C'est-à-dire, vous considérez qu'on vit au-dessus de nos moyens
aujourd'hui
en matière d'eau.
Oui, on vit au-dessus de nos moyens. Aujourd'hui, pour vous dire, dans les années 50-60, on consommait 5 litres d'eau par jour par personne. Entre 5 et 10 litres. Aujourd'hui, c'est 150 litres par personne.
Oui, voilà. La vie a
alors,
changé.
Alors, je ne dis pas que la solution est là. La solution, elle est multiple. Aujourd'hui... les centrales nucléaires, pour ne citer que ça,
c'est des quantités faramineuses.
16 milliards de mètres cubes. 16 milliards de mètres cubes qui sont utilisés par les centrales nucléaires pour refroidir, je dirais, les réacteurs et faire en sorte qu'on puisse produire de l'électricité. Donc tout ça fait que, eh bien, il n'est pas question pour moi de dire on va arrêter le nucléaire, ou on va arrêter l'agriculture, ou on va, nous, diminuer notre eau et plus se doucher tous les matins, etc. etc.
Mais
il faut trouver la façon de partager cette ressource et pour que chacun puisse en avoir suffisamment, c'est-à-dire qu'il faudra modifier notre façon de cultiver. C'est-à-dire que l'agriculture doit évoluer demain vers une agriculture moins consommatrice en eau. C'est-à-dire, par exemple, les maïs de semence devront peut-être disparaître de certains territoires au profit d'autres cultures qui sont moins gourmandes en eau. Comme l'industrie devra peut-être mettre en place des process qui utiliseront moins d'eau pour fabriquer tout ce que fabrique l'industrie aujourd'hui, que ce soit les jeans. Un jean, aujourd'hui, a besoin de X de dizaines de litres d'eau pour fabriquer un jean. Donc, voilà, toute cette façon de concevoir la société, bien, il faut peut-être aller vers un nouveau modèle de société, de façon à être moins consommateur en eau, et faire en sorte que cette eau puisse profiter, autant que faire se peut, à la fois à l'agriculture, parce que nous aurons besoin de l'agriculture
bien
pour nous nourrir,
oui,
à la fois à l'industrie, parce que l'industrie aura toujours besoin d'eau, et aussi pour nous, pour l'utilisation domestique que nous faisons aujourd'hui, que ce soit pour boire, pour nous alimenter, mais aussi pour nous laver, etc., et tout ce que nous faisons au quotidien. Et donc tout ça bien fait que bien il faut se mettre autour d'une table et débattre, et discuter
et être
raisonnable.
C'est
surtout.
Ça. La première étape, c'est d'abord une prise de conscience, parce que je suis pas certain que la majorité des gens sont au courant ou sont sensibles aux arguments que vous avez déjà évoqués. Une remarque symbolique, vous avez récemment, je crois, en conseil d'aglo également, demandé au président de la République de déclarer la gestion de l'eau cause nationale.
C'est ça. Ça a été voté à l'unanimité, j'en suis fier. Et bon, pour l'instant, je n'ai pas la réponse du président de la République, mais pour moi, c'est l'eau...
C'est-à-dire, vous tirez le signal d'alarme au niveau national.
Doit devenir une cause nationale, parce que sinon, notre pays sera en difficulté. Mais pas forcément dans l'usage domestique, mais aussi pour l'industrie,
pour l'agriculture,
etc., pour tout ce que nous faisons au quotidien. L'eau est un enjeu primordial pour toutes les actions que nous menons au quotidien. Et l'abondance, bien, c'est terminé. Il faut savoir le dire, savoir l'assumer. Et l'assumer, ça veut dire que, eh bien, il faut que chacun puisse prendre conscience qu'il faut que nous fassions tous des efforts pour que, eh bien, cette consommation d'eau, eh bien, soit au moins diminuée, de façon à ce que ressource... puisse profiter à tout le monde.
Voilà, pour dire les choses, la gageure dorénavant, ça sera qu'il y en ait pour tout le monde et que chacun ait sa part équitable.
Écoutez, je vais vous citer juste, je vais vous raconter une petite histoire.
Oui, on va marquer, si vous le permettez, monsieur Banquier, une première pause et on se retrouve.
D'accord.
Et je vous promets que votre petite histoire,
on l'aura
primeur au début.